dans quelques instants. Je veux vous apporter une brève exhortation ce matin, un bref message. Et il y a cette idée-là que quand quelqu'un ressuscite de cette façon-là, il y a quelque chose de surprenant. Mais il y a quelque chose de troublant lorsqu'on réalise que Jésus avait prédit sa mort. Là, vous dites, OK, prévoir de mourir, je pense qu'on peut tous faire ça. Moi, je prévois que je vais mourir un jour. Est-ce que je suis le seul? Non? Bon. C'est pas un exploit de prédire qu'on va mourir un jour. Savoir qu'on va mourir aux mains des gens qui ne nous aiment pas, on augmente un petit peu la difficulté. C'est-à-dire qu'on élimine la cause naturelle. On est en train de dire, les gens qui ne m'aiment pas, c'est eux, je vais mourir aux mains des gens qui ne m'aiment pas. On lève un peu de niveau. Lorsque quelqu'un décrit exactement les tortures qu'il subira jusqu'à la mort, oh, là, ça prend une bonne audace. Ça prend une bonne audace pour décrire les souffrances exactes par lesquelles il va être mené à la mort. Ça ne se finit pas là. Ensuite de ça, imaginez prédire que les prophéties de l'Ancien Testament s'accompliront prochainement. Là encore, là, ça commence à être choquant. Là. Ça commence à être un autre niveau. Mais lorsqu'on va encore plus loin, prédire qu'on va ressusciter 3 jours après, là, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous comprenez que prédire qu'on va mourir, ça va. De dire qu'il y a des gens qui ne nous aiment pas, ça va. Il y a des pays où est-ce que tu as peut-être plus de chances de tomber dessus. Mais de prédire que non seulement les prophéties vont s'accomplir, mais en plus de dire que tu vas ressusciter en 3 jours, là, on passe à un autre niveau complet. Luc 18 va dire la chose suivante, et ça, évidemment, c'est avant la crucifixion et c'est avant la résurrection. Ça va dire la chose suivante au verset 31. « Jésus prit les 12 avec lui et leur dit, « Nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. » Il est exactement en train de dire, toutes les prophéties s'accomplissent aujourd'hui, vont s'accomplir prochainement plutôt. Verset 32, « En effet, il sera livré aux non-juifs. » On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. C'est détaillé, là, mes amis. C'est vraiment détaillé. Et il continue, le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent pas cela, c'était pas assez clair. Il n'y avait pas assez de détails. Il n'y avait pas assez d'alignement. Je ne sais pas comment le dire. Il va dire que c'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et la chose est arrivée exactement comme il l'avait lui-même prédit et annoncé. Il connaît la chose et elle s'accomplit exactement telle qu'il l'avait décrite. Et je ne sais pas si ça vous émerveille, la toute connaissance de Dieu, mais honnêtement, il devrait y avoir quelques personnes dans ce lieu qui disent « Merci Seigneur pour ta toute connaissance, parce que si tu connaissais toutes ces choses, tu connais également ma vie, tu connais mes souffrances, tu connais ce que je suis en train de vivre. » Et sais-tu quoi? Tu peux en être victorieux par la suite, parce que Jésus est tout puissant, il connaît toutes choses. On peut s'émerveiller parce qu'il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui a pu prédire ces choses-là. Vous pouvez lire Nostradamus comme vous voulez. Vous pouvez défiler les pages comme vous voulez, les relire. Et les... Il n'y a rien d'aussi précis que ce que Jésus a fait avec ses disciples et comment tout s'est accompli parfaitement comme il l'avait annoncé. Et en plus de ça, on a besoin d'être émerveillé par la vie qui était en Jésus. Cette vie qui était tellement puissante que même la mort n'avait aucune chance. La mort n'avait aucune chance de le retenir. Et ça, encore une fois, il y a quelque chose de tellement puissant dans le fait que la mort de Jésus, il n'y a rien qui pouvait le laisser dans le tombeau parce que la vie en lui était tellement forte, était tellement brillante, était tellement divine qu'il est ressuscité. Et savez-vous que cette même puissance-là, elle est là pour nous. Une vie tellement forte qui a le pouvoir de la prendre, de la donner, de la reprendre, mais une vie que si lui, la mort, n'a pu le retenir, nous croyons que si nous croyons en Jésus, la mort n'a plus d'effet sur nous. Parce que la vie en nous est tellement forte, la vie en nous est tellement puissante, l'esprit qui habite en nous est tellement puissant que même la mort n'a aucune chance. Aucune chance. Aucune chance. Aucune chance. Et ça, c'est notre assurance et notre espérance. Dans Luc 24, ça va nous dire qu'est-ce qui s'est passé à ce dimanche de Pâques. Le dimanche. Quelle belle journée, le dimanche. Le dimanche. Peut-être qu'il pleuvait, on ne sait pas. Elles se rendirent au tombeau. C'est des femmes qui se sont rendues au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisis de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et voici le texte fini en disant, « Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. » La vie était tellement forte qu'elle ne pouvait retenir Jésus dans les sombres ténèbres du tombeau. Jésus a dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Crois-tu cela ce matin? Crois-tu cela ce matin? Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Comprenez que quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », est-ce qu'il le dit après la résurrection ou il le dit avant? Oh, vous n'êtes pas convaincus. Il le dit avant. Il a dit avant même de mourir et avant même de ressusciter, non seulement je vais ressusciter, mais il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Je ne sais pas si des fois, là, on a tellement vu l'histoire, on a tellement lu qu'on ne réalise pas à quel point il y a quelque chose de puissant dans le fait que Jésus annonce toutes ces choses à l'avance et ça se produit exactement comme il l'avait annoncé. Cette vie est en toi. Cette vie a le potentiel d'être en toi et en moi. Cette puissance-là peut faire habitation chez toi et chez moi. Romains 8 va dire la chose suivante. Et je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher ce matin. Ça va dire la chose suivante, et s'il vous plaît, on va revenir sur quelques éléments, mais ce texte-là est d'une beauté phénoménale. Si l'Esprit, le Saint-Esprit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Et en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit que ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, ça fait toute la différence. Ça fait en sorte qu'on entre dans une vie complètement nouvelle. Et je veux juste vous donner un petit aperçu de qu'est-ce que ça pourrait changer. Là, il y en a ici qui l'ont déjà expérimenté, puis il y en a peut-être ici qui disent, « Ah ouais, qu'est-ce que ça change? » Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi, qu'est-ce que ça peut changer? Ben, un au verset 11, ça veut nous dire que tu vas ressusciter comme Jésus et tu vas vivre avec lui pour l'éternité. Ça veut dire que Christ va rendre à la vie ton corps mortel pour te donner un corps immortel avec lequel tu vas être avec Christ à chaque minute et chaque seconde dans un endroit où il n'y a plus de péché, où il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de niaiserie, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de politique. Amen. Pas pire, pas pire. Là, je sais que vous parliez que vous réjouissiez qu'il n'y ait plus de péché au ciel, OK? Bon, mais quand même. Non seulement ça, ça va dire justement au verset 12 qu'on a plus de dette. On n'a plus de dette. On n'est plus esclave de notre passé et de nos mauvaises habitudes. C'est fini. Si l'Esprit de Christ habite en moi, la puissance qui habite en moi permet que ces mauvaises habitudes-là, le péché, tout ça n'a plus d'emprise sur moi. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de tentation. J'ai dit que quand Christ est en nous, l'Esprit de Christ, sa puissance habite en nous, ces mauvaises habitudes-là n'ont plus de pouvoir sur nos vies. Quelqu'un devrait dire « Amen » à ça. Amen. Non seulement ça, au verset 14, on voit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. On n'est pas tout seul ici, on est conduit, dirigé par celui qui habite en moi, par l'Esprit de Christ qui habite en moi. Alors Christ a un plan pour ton futur, pour ta vie, et non seulement ça, il fait de toi son enfant, son fils et sa fille. Un changement d'identité, une adoption dans sa famille divine. Il continue en disant, hey, on n'a pas un esprit d'esclavage, on n'a pas un esprit de crainte, mais on va avoir un esprit d'adoption qui nous fait dire « Abba Père ». Ça, ça veut dire quoi, « Abba Père » ? C'est comme si on disait « Papa ». C'est un terme familier qui nous dit, c'est la chaleur humaine d'un papa. Dans notre cœur, on est capable de crier « Papa » à cause de la puissance de celui qui habite en nous. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais on vit dans un monde où l'amour n'est pas aussi évident que cela à percevoir. Mais l'Esprit de Christ en nous nous permet de dire « Papa, Papa », parce qu'il nous aime pleinement. Tu passes d'un effet où est-ce que tu avais la peur et l'esclavage, tu étais pris dans toutes tes habitudes, toutes les choses qui n'ont pas de bon sens, et tu remplaces ça par un esprit d'adoption par lequel on peut crier « Papa, Papa, tu m'aimes et je t'aime ». Tu as un Père qui t'aime tendrement dans le ciel. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Et finalement, au verset 16, ça va dire « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Tu as l'assurance que tu ne seras pas jamais abandonné. Jamais abandonné. Parce que tu es son enfant pour vrai. Jamais abandonné. Tu es l'enfant de Dieu. Si l'Esprit de Christ, si l'Esprit qui a ressuscité Christ, habite en toi, toutes ces choses deviennent possibles. Toutes ces choses deviennent possibles. Et j'aimerais vous dire, je n'ai pas expérimenté la mort et la résurrection encore. J'y aspire. Je n'essaie pas d'accélérer le jour, toutefois. Okay? Je regarde devant moi quand je conduis. Okay? Mais pour le reste, d'avoir cette conviction-là d'être un enfant de Dieu, d'être capable de savoir que je suis aimé tendrement, d'être dirigé, que le Seigneur a tassé toutes sortes de mauvaises habitudes parce que plutôt que les combattre par moi-même, j'ai laissé Dieu les combattre pour moi. De savoir justement que j'ai une assurance parce qu'il ne m'a jamais abandonné puis je le sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Bien, j'ai expérimenté tout ça dans ma vie. Et savez-vous quoi? Si je me tiens devant vous, c'est parce que je suis pleinement aimé et parce que la puissance de la résurrection a encore un effet en 2026 dans nos propres vies. Dans nos propres vies. Et savez-vous quoi? Ça va continuer encore. Ça va continuer encore parce que l'Esprit de Jésus, il est vivant. Si la tombe est vide, c'est pas juste parce que ça sentait pas bon là-dedans. Si la tombe est vide, c'est un symbole évident et puissant que Jésus vit encore aujourd'hui. Il n'est pas mort, il vit et il agit puissamment dans nos vies, chers amis. Alors, aujourd'hui, c'est Pâques. On célèbre la résurrection parce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi, oh wow, toutes choses deviennent possibles. Même mes habitudes les plus terribles peuvent passer de la mort et puis ressusciter en nouveauté de vie, dans un nouveau corps, dans une nouvelle habitude, dans quelque chose qui est loin du péché. Et ça, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ qui habite en nous. J'aimerais poser cette question ce matin. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience de laisser Jésus conduire votre vie. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de la puissance de la résurrection qui transforme complètement les cœurs. Je ne sais pas si vous avez peut-être fait partie de, un peu comme ces femmes qui vont au tombeau et qui sont étonnées. Peut-être vous êtes étonnés aujourd'hui de dire, le fait que Jésus soit ressuscité, je ne savais pas que ça pouvait vouloir dire tout ça. Peut-être que vous êtes ici et vous avez toutes sortes de mauvaises habitudes, vous avez toutes sortes de choses qui, vous avez l'impression d'être loin de Dieu. La parole nous dit qu'on n'est pas dans un esprit de crainte et d'esclavage, mais on est dans un esprit d'adoption qui nous fait dire « Abba, Papa, notre Papa ». Et l'invitation ce matin, et j'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse courber la tête juste par respect des gens qui sont ici, puis juste se mettre dans une position où est-ce qu'on, en révérence devant le Seigneur. Je vous demandais, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore fait de Jésus leur Papa? Qui n'ont pas encore décidé de suivre ce Jésus qui est non seulement mort, mais qui est ressuscité. Et ce matin, c'est un moment de... C'est Pâques. Tous les disciples et toutes les femmes, lorsqu'elles ont été près du tombeau, ont été mises devant cette décision-là. Est-ce que je crois? Est-ce que je crois que c'est une résurrection? Est-ce que je crois que c'est vraiment Jésus qui est non seulement mort, mais qui vit pour toujours? Et cette décision-là, elle est encore là aujourd'hui. Et je veux demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre cette décision-là de dire, moi, je veux suivre Jésus, je veux donner ma vie à Jésus, je veux me détourner de mon ancienne vie pour entrer dans cette nouvelle vie avec Christ, l'Esprit du ressuscité qui habite en moi? Et si c'est vous ce matin, j'aimerais que vous puissiez lever votre main, non pas pour vous mettre sur le spot, mais je veux prier avec vous ce matin. Je veux prier avec vous. Alors, si c'est vous ce matin, je vous invite à lever votre main. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Je vois une jeune fille qui lève sa main. Amen. Amen. Je vois votre main à l'arrière. Vous pouvez la descendre. Amen. Quelqu'un d'autre veut donner sa vie à Jésus ce matin. Amen. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom parce que tu es puissant. Tu as vaincu la mort. Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qui veulent te donner leur cœur, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent confesser leurs fautes, qu'ils puissent confesser leur vie et te la remettre afin qu'ils puissent marcher avec toi. Seigneur éternel, je te prie pour le miracle de la nouvelle naissance chez les uns et les autres, afin justement que cette puissance du ressuscité soit pleinement agissante aujourd'hui. Seigneur, merci de ce que tu nous pardonnes. Merci, Seigneur, de ce que tu nous fais marcher en nouveauté de vie. Seigneur, on est tellement reconnaissant. Seigneur éternel, nous voulons chacun d'entre nous, et même ceux qui croient peut-être depuis un mois, six mois, cinq ans, 35 ans, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Seigneur, nous voulons continuer, Seigneur, de marcher avec toi. Seigneur, nous voulons continuer d'avoir cette espérance vivante que parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Parce que, Seigneur, tu es ressuscité, toutes tes paroles sont oui et amen. Alors, Seigneur, puisses-tu nous aider à marcher près de toi? Et je te le demande en ton nom, Jésus, que la puissance du ressuscité puisse encourager, fortifier, pardonner, relever, adopter dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Amen.